Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Rasputin, le révérend, Jim Jones, Joseph Vacher, le serial killer de la Belle Époque, Dimambro et Jouret, les gourous de la secte du Temple Solaire, ces hommes ont écrit une histoire du mal que notre invité, l'écrivain Pierre Lunel, a décidé d'explorer dans un livre publié aux éditions First. Alors, il a fallu choisir, Pierre Lunel, et donc parmi ces serviteurs du mal, il y a notamment le dénommé Charles Manson, surnommé le hippie tueur de stars. C'est, d'abord, on va raconter ce qui lui a valu ce surnom, un massacre. On est dans la nuit du 8 ou 9 août 1969. Qui va-t-il tuer ou faire tuer ?
Alors, il fait tuer, il n'est pas présent, mais il est le commanditaire, il est l'assassin en chef de Sharon Tate. Alors, qui est Sharon Tate ? Sharon Tate est, à l'époque, n'est pas une grande star. Elle a joué dans le Bal des Vampires, tout le monde s'en souvient et a rigolé avec ce film de Polanski, et elle a épousé son metteur en scène. Voilà.
Donc c'est
elle
n'est
pas encore une grande star, oui. Mais c'est l'épouse de Polanski.
Et elle est enceinte.
Et elle est enceinte de quelques mois, effectivement, quand le drame survient.
Alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce que ce meurtre va horrifier l'Amérique.
Mais le meurtre horrifie l'Amérique parce qu'une bande de 4-5 personnes sont arrivées, des femmes, la plupart, et un homme, c'est 4 femmes et un homme, sont arrivées dans la propriété de Polanski, qui était en réalité la propriété d'un producteur de musique, qui avait éconduit Manson. Parce que Manson prétendait être un grand génie de la musique.
Oui.
Il avait
nouveau,
des dons
il se révèle
d'écriture
un nouveau
de chansons.
Oui.
Mais il était musicalement très feignant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quand même devenir doué comme ça sans travailler un peu.
Est-ce qu'on sait si Charles Manson était présent le soir du meurtre ?
Non, Charles Manson n'était pas présent la nuit du meurtre. Mais à l'issue du meurtre, quand la famille, puisqu'on appelait les filles qui travaillaient pour lui, si je puis dire, les membres de la famille, sont revenus au ranch dans le désert de Californie où il était, et lui ont raconté ce qui s'était passé, il a dit « il faut effacer les traces ». Donc, à ce moment-là, les membres de la famille sont revenus dans la villa de Polanski.
Donc, les meurtriers, on est bien d'accord.
Les meurtriers, par conséquent, sur l'ordre de Manson. C'est-à-dire, ils sont venus vérifier s'ils étaient bien morts. En réalité, ils étaient déjà morts.
Que fait la femme de ménage des Polanski ? Roman Polanski n'était pas là, hein, il était en Europe.
Non, il était en Angleterre à ce moment-là pour le tournage d'un film. La femme de ménage, au petit matin, il n'y avait plus de survivants que le petit chat de Sharon Tate. Quand elle voit le drame et les cadavres, au lieu d'appeler la police, elle appelle tous les amis hollywoodiens de Polanski.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que apparemment, il y avait des choses à dire à ces gens-là pour qu'ils rappliquent avant que la police ne vienne.
Parce qu'il y avait une soirée dans la villa.
Il y avait des soirées tout le temps dans la villa.
Ouais.
Je ne veux pas dire par là que Polanski parrainait toutes ces soirées, mais il y avait des soirées, des soirées chaudes dans cette villa, fondées sur le sexe et la drogue. Mais c'était dans ces années-là, c'était vraiment une consommation naturelle, quelque part. Et Manson et la famille de Manson participaient à ces soirées. C'est-à-dire qu'ils étaient à la fois des fournisseurs de drogue et des fournisseurs de filles. Et par conséquent, Manson connaissait très bien Polanski, Sharon Tate, etc. Jay Sebring, le coiffeur des stars, puisque même Yul Brynner allait se faire coiffer chez lui.
C'est original. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Yul Brynner est complètement chauve. Pierre Lunel, vous dites que vous avez choisi pour ce livre Les Serviteurs du Mal des meurtres cicatrices, c'est ça, c'est le terme
Des crimes cicatrices qu'on n'oublie pas.
Pourquoi celui-là, il a marqué l'opinion ?
Il marque l'opinion parce que les victimes sont des stars d'Hollywood, premièrement, et deuxièmement, il marque l'opinion parce que c'est un crime qui est lié à la fin des Beatles et qui est lié en même temps à la fin de ce qu'on appelle le Flower Power. C'est vraiment le mouvement des hippies. C'est-à-dire qu'après le meurtre de Manson, c'est la mort des hippies. Et en quelque sorte, cela a arrangé tout le monde, parce que l'Amérique puritaine et l'Amérique qui voulait en finir avec la guerre du Vietnam ne pouvaient plus continuer de supporter ce mouvement hippie non violent.
Comment il a recruté ses fils et membres de la famille, comme il disait Charles Manson, avec de la drogue, du sexe, des promesses ?
Mais avec, d'abord, il faut bien le reconnaître, c'est un petit homme, Charles Manson, de rien du tout, freluqué, vraiment, il ne paie pas de mine, mais il faut bien reconnaître qu'il a réussi à conquérir quelques dons de persuasion. Comme des gourous, oui, comme les gourous. Et ça, ce don de persuasion, il l'avait probablement à la base. Il a été ensuite, je dirais, initié en prison, parce qu'il a fait très tôt de la prison, Manson, hein, par des types qui avaient déjà des talents de gourou et
de qui lui ont appris des
ficelles. Bon, ses filles, en même temps, sont des filles très fragiles. Faut pas imaginer que c'était vraiment des filles très libres, indépendantes, etc. C'est des filles d'une fragilité extrême. Elles sont droguées, elles ne savent pas quoi faire dans la vie, elles ont 18-20 ans, et vraiment, le mouvement hippie, pour elles, c'est un mouvement de folie.
Et il les transforme en esclaves.
Quelque part en esclaves. Alors, il n'a pas du tout le sens de l'égalité des sexes, Manson. Dans le ranch qu'ils ont dans le désert, que la famille a dans le désert, la femme est vraiment au-dessous des bêtes. C'est-à-dire, vraiment, les chiens se nourrissent mieux que les femmes. Et les femmes, elles servent vraiment à aller vider les poubelles, elles font tous les travaux les plus avilissants. Et par-dessus le marché, elles sont les compagnes sexuelles.
Ouais, et elles vont devenir aussi les meurtrières, ce qu'on a déjà décrit et ce qu'on va continuer de raconter. Charles Manson, hippie tueur de stars, parce qu'il n'y a pas que les Polanski. Dans votre livre, vous racontez des scènes surréalistes avec l'un des Beach Boys. Ils ont réussi à rentrer dans son intimité.
Il faut dire qu'il avait des relations avec le monde musical. Encore une fois, il n'est pas nul en musique. Il a des talents. Des talents de guitariste. Il n'a pas des talents de chanteur parce qu'il a une voix assez blanche. Il n'est pas très doué. Mais en revanche, il a un talent de parolier. Et ce qui fait que finalement, quand il essaie de se promouvoir auprès des producteurs musicaux, ces gens-là quand même l'écoutent. Et veulent bien le faire travailler. Malheureusement, on ne peut jamais l'enregistrer parce qu'il est feignant comme une couleuvre. Et comme il est drogué du matin au soir, évidemment, ça ne facilite pas le travail.
On va essayer de comprendre comment Charles Manson est devenu ce gourou, ce meurtrier. Pour ça, il faut remonter aussi à l'enfance. C'est ce qu'on va vous raconter dans un instant sur RTL.
Les serviteurs du mal, c'est le thème de notre curiosité, le titre du livre de notre invité Pierre Lunel, qu'on est ravis de retrouver au micro de la curiosité. L'un des meurtriers maléfiques dont vous racontez l'histoire, c'est Charles Manson, dont parle d'ailleurs Nicolas Perrac dans la chanson qu'on vient d'entendre. Le hippie tueur de stars, c'est ça son surnom, connu pour avoir commandité l'assassinat de Sharon Tate, la femme de Roman Polanski. Alors on va essayer de comprendre comment il est devenu ce monstre que l'on a décrit tout à l'heure. On commence par le début, sa naissance. Il est né en novembre, le 11 novembre 1934. Dans quel environnement familial voit-il le jour ?
Pourri. Il n'y a pas d'autre terme que ça. C'est vraiment un pauvre garçon qui naît d'une mère alcoolique, prostituée,
toxicomane,
qui se balade d'une petite ville à une autre petite ville.
Elle va même tenter de vendre son fils.
Oui, elle a essayé même de le vendre parce que finalement elle ne savait plus quoi en faire. Donc elle se dit que il y a des gens qui vendent des organes. Elle voulait vendre son fils. Bon, donc ça permet pas de grandir serein quand même. Donc comme tous les criminels, ils ont des enfances douloureuses. Alors lui,
Les gens qui ont eu une enfance douloureuse ne sont pas devenus criminels. Donc ça ne donne pas des excuses.
Exactement. Hein. C'est tout à fait vrai. Donc ça n'excuse pas. Et il a néanmoins eu une enfance terrible. À l'âge de 16 ans, 17 ans, il est déjà.
Il fait de la prison déjà. Vous nous avez dit qu'il
fait de la prison.
Déjà très jeune.
Il met des filles sur le trottoir. Il va jouer le torero au Mexique. Il commence à se droguer au LSD. C'est vraiment la grande époque du LSD. L'époque des hippies, l'époque des années 68, c'est le LSD qui domine comme drogue. Et lui va devenir une sorte de pape du LSD.
C'est une espèce de gourou avec un cocktail préféré, effectivement, LSD, sexe et champignons hallucinogènes.
Oui,
c'est
parce
ça
qu'alors ce freluqué de rien du tout exerce une sorte de fascination sexuelle sur son entourage. Et toutes ces filles ravissantes, il les prend vraiment, ce sont toutes des splendeurs. Elles ont souvent à peine des mineurs, hein, souvent ouais. 16 ans, 17 ans, jusqu'à 22, 23 ans. Et elles tombent raides amoureuses. Raide folle de ce personnage.
Et va en faire des esclaves, vous nous avez raconté ça tout à l'heure, Pierre Lunel, des esclaves qui sortent les poubelles, sont des esclaves sexuels.
Oui, ce sont des esclaves.
Mais comment Charles Manson va transformer ces jeunes filles en fleurs, entre guillemets, en meurtrière?
Alors ça, c'est tout le problème, parce que, le LSD fait ce genre de provoque ce genre de drame. Il n'y a pas que le LSD, l'héroïne aussi, mais paraît-il que le LSD a des vertus de décérébration complète. Enfin, les gens qui en prenaient à l'époque perdaient totalement le nord, et même le sud. Et par conséquent, elles devenaient... Alors, là se pose une question. Parce que, vous savez, on a toujours pensé que Manson, c'était finalement le crime d'un hippie drogué, shooté à mort, avec des filles shootées à mort, et par conséquent, un crime rituel de gourou. Alors ça pose un gros problème, parce que c'est faire lisière des relations étroites, sinon d'amitié, du moins de bonne compagnie, de Manson et sa famille avec ceux qu'on appelait les beautiful people, vraiment ces gens de Hollywood dont la famille Polanski faisait partie.
Donc il gravitait dans cet univers.
Il gravitait dans cet univers. Alors, ça a été très commode pour... après le crime, ça a été très commode pour un procureur de Californie, Vincent Bugliosi, de dire c'est un crime rituel de gourou, fanatique, drogué, etc. Et ça convenait très bien, parce que ça permettait de démolir ce mouvement des hippies. Parce que l'Amérique bien pensante en avait marre de ça.
Et ça
de ces gens qui faisaient l'amour à tout bout de champ, partout, avec les champignons psychédéliques.
Ouais. Et Pierre Lunel, ça permettait aussi de ne pas aller mettre son nez dans les amis très célèbres de Charles Manson,
surtout,
c'est ça ?
Et surtout de pas salir la vitrine de l'Amérique qu'est Hollywood. Vraiment, salir Hollywood, c'est salir l'Amérique.
On a raconté tout à l'heure le meurtre de Sharon Tate et de quatre de ses proches. Deux jours plus tard, Charles Manson et sa famille, entre guillemets, ces jeunes filles, vont s'attaquer à de nouvelles victimes qui sont Leno et Rosemary LaBianca.
Alors ça aussi, LaBianca, officiellement, je dirais, le pignon officiel dans la rue, c'est ils sont des commerçants. Sauf qu'ils sont des commerçants qui trimballent des milliards. Donc c'est quand même un peu bizarre pour des commerçants de quartier d'avoir autant de fortune. On a la preuve que les LaBianca, comme le monde d'Hollywood qui était chez Polanski, trafiquait également dans la drogue. Bon, comme consommateur, mais également comme dealer, comme vendeur. Et on sait que la famille de Manson avait grand intérêt à savoir les jours d'arrivage de grosses quantités de drogue dans ces maisons huppées pour aller voler cette drogue et la revendre encore plus cher. Ce qui fait que certains ont avancé l'idée que finalement, la nuit du meurtre, la famille, les filles de Manson, sont allées à l'instigation de leur gourou en chef, Charles, sont allées dans la villa de Polanski pour voler la drogue qui venait d'arriver et dont l'un des membres assassinés cette nuit-là, le coiffeur des stars Jay Sebring, était un des marchands qui a pignon sur rue.
Alors Pierre Lunel, on va pas raconter le procès et pourtant il est
9 mois.
Il est croquignolé, il dure 9 mois, il faut lire Les Serviteurs du Mal pour avoir ce détail là, mais moi je voudrais qu'on termine cette histoire Manson, on va en raconter une autre après, parce que aujourd'hui encore sa peine, il a été condamné à mort, sa peine a été commuée en prison à vie, il est encore en prison, il est toujours
80
vivant.
Ans, il est à la prison de Corcoran en Californie
et il fascine toujours.
Il vit seul à l'isolement depuis donc le début, il ne voit personne, sauf qu'il a des visites au parloir, il reçoit, alors c'est là où il faut vraiment s'accrocher, il reçoit 60 000 lettres par an, parmi lesquelles des lettres d'amour de la part de filles qui sont folles de lui. Il a voulu se marier, ça a été refusé, avec une jeune femme de 23 ans. De 23 ans, qui vraiment était tombée amoureuse de lui. Il a toujours sa croix gammée sur le front, puisqu'il s'était incrusté une croix, puis il l'a fait évoluer en croix gammée après, et elle est restée sur son front indélébile. Et il attend la mort à la prison de Corcoran, mais surtout, il est devenu légendaire. Je veux dire que, vraiment, c'est devenu une icône du mal. C'est-à-dire, comme il y a Che Guevara avec le poster, il y a Charlie Manson avec ses yeux de fou que l'on voit sur des grands posters. Voilà. Il est resté l'incarnation du mal d'une époque.
Autre serviteur du mal, Ted Bundy, vous l'avez surnommé Pierre Lunel, celui qui ne devait pas tuer. Il aura 100 meurtres sur la conscience. On vous raconte son histoire juste après RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et on raconte avec Pierre Lunel, notre invité, l'histoire de ces gourous meurtriers, serial killers. Vous en avez fait un livre, Les Serviteurs du Mal, publié chez First Document. On va raconter maintenant l'histoire de Ted Bundy, né en 1946, dans une bonne famille, mais ça se passe pas bien. Pourquoi ?
Ça se passe pas bien parce que justement, c'est une bonne famille. Donc, ce que fait la fille, c'est pas joli. Elle se fait faire un enfant par un monsieur de passage qui ne reconnaît pas l'enfant.
Sa maman.
La maman de Ted.
Ah oui.
Elle s'en va avec l'enfant et le papa et la maman de la fille lui disent à un moment donné, si tu veux revenir, tu n'es plus la mère. Alors, je ne comprends pas très bien. Et l'enfant, ils reviennent et l'enfant est obligé d'appeler pendant 7 ans sa maman par son prénom. Ça commence à être un peu compliqué pour la...
Il devait faire semblant que ce n'était pas sa mère, finalement.
Et donc, à un moment donné, quand même, quand il est arrivé à 7-8 ans, il s'est bien rendu compte que c'était quand même sa mère. Mais entre-temps, il s'était parti de l'autre côté des États-Unis, à Seattle, dans une famille, et elle s'était mariée avec le fameux Bundy, qui est un cuisinier, un brave cuisinier. Et Ted, très vite, a su que ce Bundy n'était pas son père. Ouais. Donc, il est revenu faire enquête de là où il venait, en Nouvelle-Angleterre. Et puis là, il est tombé sur les registres d'état civil, père inconnu. Voilà. Alors, donc ça, c'est la première cicatrice.
La première cicatrice. Là, on va aller un peu vite, mais la deuxième cicatrice, c'est une cicatrice amoureuse.
Eh ben oui, ça peut arriver.
On n'est pas devenu serial killer pour autant. Alors qu'est-ce qui lui arrive ?
C'est ça, voilà. Généralement, on ne tombe pas, on ne tue pas. Alors là, il rencontre une fille merveilleuse d'une société un peu plus élevée que la sienne.
C'est un beau garçon, il plaît ?
Il est très beau. Il est magnifique. C'est un garçon, mais une beauté, une gravure de mode, vraiment. On dirait aujourd'hui, il est beau comme un mannequin, voilà. Et donc, les filles l'adorent, et cette fille tombe amoureuse de lui, ils restent pendant un an ensemble, et puis, au bout d'un an, elle se rend compte quand même que c'est pas le même niveau social. Donc, elle le largue. Quelqu'un de normal se ferait larguer, pleurerait un bon coup, et puis repartirait à zéro. Eh bien, lui, non. Il en conçoit, mais ça on ne le sait pas à l'époque, une blessure terrible. Et on commence de s'apercevoir qu'on meurt beaucoup du côté de Seattle, des jeunes femmes très jolies, qui ont toutes autour de 20 ans, 22 ans.
Qui se ressemblent toutes un petit peu.
Et qui ont toutes le même physique.
Ouais.
Qu'elles soient brunes ou qu'elles soient blondes, ça peu importe, elles sont les deux teintes, mais elles ont les cheveux longs, avec une raie sur le milieu. Et elles sont adorables.
Voilà. Donc ça veut dire qu'il essaye de tuer éternellement la femme qui l'a larguée ?
Ça veut dire qu'il a commencé d'essayer de la tuer en la séduisant une seconde fois. Oh, il est pervers, hein ? En séduisant une seconde fois, après avoir fait des études de droit, être devenu vraiment un petit pilier du Parti républicain de Californie.
Ah, donc il s'est reclassé en quelque sorte.
Il s'était reclassé socialement. Donc la fille Stéphanie est revenue avec lui. Elle a été amoureuse de nouveau. Et à ce moment-là, au bout de quelques semaines, il la largue sans aucune explication. Il la laisse choir. Elle ne comprend pas. Elle est désespérée, elle fait une dépression, elle se remarie, très bien.
Et lui, il a déjà commencé sa route de crime.
Et lui a commencé donc la vengeance.
Ouais.
Et ensuite, comme la vengeance, comme ça, en la repoussant, n'est pas suffisante, il va se mettre à tuer toutes les filles qui peuvent ressembler... Ah oui. À cette Stéphanie.
Comment il les piège ?
Alors il les piège avec des petits trucs.
Il fait croire qu'il est malade ou blessé.
Voilà, par exemple, il sort d'une bibliothèque avec une pile de livres et puis il dit qu'il a le bras en écharpe et que par conséquent, il faut l'aider à porter ses bouquins. Une seconde fois, il a sur sa coccinelle, il adore les coccinelles, c'est les voitures, les Volkswagen coccinelles. Il veut qu'on l'aide à mettre un bateau sur le toit. Alors, et comme il est très beau, il a un sourire craquant, les filles viennent vers lui, ont confiance. Alors, quelques-unes prennent la poudre d'escampette et se sauvent in extremis, mais la plupart, malheureusement, non, mais ils ne laissent aucune trace.
Et il y a une de ces jeunes, justement, qui va faire avancer l'enquête, elle s'appelle Carole Daronc.
Oui, Daronc.
Comment tente-t-il de l'attirer dans un piège?
Alors là, c'est alors différent, c'est plus le bras en écharpe. Là, il se présente, elle est rentrée dans un supermarché, il la suit, il est en civil, il dit « Je suis un policier, madame, mademoiselle, est-ce que la voiture qui est dehors, là, immatriculée, numéro tant, n'est pas la vôtre ?»« Oui, oui, monsieur. Eh bien, parce qu'on a essayé de la voler. Venez avec moi. » La fille le suit, policier en civil, elle le suit comme ça. Et puis, elle remarque qu'il n'y a pas grand-chose. Et lui, à ce moment-là, écoutez, on peut trouver le coupable, mais il faut m'accompagner jusqu'au poste de police. Et là, il la fait rentrer dans une coccinelle cabossée et pourrie. Bon, et à ce moment-là, elle réussit à s'échapper, à se carapater, et elle sauve sa peau. Et en même temps, elle sera une pièce à charge contre Ted Bundy.
Contre Ted Bundy, qui sera finalement exécuté. Dernier mot, qui appelle-t-il juste avant d'être exécuté?
Ben, sa maman. Vous savez bien que même les pires criminels ont une maman.
Une mère.
Et aiment leur mère. Mm. Et elle n'a jamais cessé d'aimer son fils. Mais au bout de 14 ans ou 15 ans de procédure, il est parti se réfugier, sa grande erreur, en Floride. Et c'est un État qui a maintenu la peine de mort, comme vous le savez.
Oui.
Donc il sera exécuté, électrocuté, en 1096.
Merci beaucoup Pierre Lunel. Votre livre « Les serviteurs du mal » est publié aux éditions First Document.